Américains qui partent à l'étranger. Qui sont-ils et que font-ils? Pourquoi ont-ils décidé de quitter leur pays et ainsi devenir des immigrants? Partons à la rencontre de ceux qui forment la diaspora canadienne. Bienvenue à la chronique des Canadiens de l'étranger.
Bonjour, je suis Michael Charette, je suis originaire du Québec, plus précisément de Montréal, et puis j'habite Beijing depuis déjà 7 ans.
Alors Michael, qu'est-ce qui vous a amené à Beijing?
Bah, écoutez, j'ai commencé par une maîtrise à Hong Kong, dans le sud de la Chine, en 2003, donc je suis débarqué ici, et puis depuis, je suis resté, donc je suis monté à Beijing en 2004, et je suis jamais reparti, quoi.
Pourquoi l'inspiration d'aller à Hong Kong déjà dès le début pour aller étudier? Parce que c'est quand même très très différent du Québec et de Montréal.
Ouais, absolument. En fait, à l'époque, tout le monde, c'était sur les lèvres de tout le monde, quoi. Un peu la Chine est en croissance et le but de ma maîtrise, en fait, était les recherches de maîtrise que je faisais à l'époque étaient à Hong Kong, basées sur l'intégration de la Chine à l'OMC. Mm-hmm. Et puis le cadre juridique de la Chine qui remplissait les obligations et savoir à quel point ils étaient rendus dans leurs obligations de se conformer à l'Organisation mondiale du commerce et les obligations qu'ils avaient prises en 2001. Et il y avait eu 7 ans pour faire des modifications juridiques à leur système judiciaire et juridique. Et c'est ce qui m'a apporté, en fait, j'ai fait une étude sur ça.
Qu'est-ce qui vous a fasciné de la culture chinoise? Qu'est-ce qui vous a fasciné le plus?
Comme je le dis toujours à mes clients québécois ou canadiens qui décident de s'aventurer en Chine, c'est qu'on a deux coffres d'outils complètement différents. Donc, non seulement il y a la différence de la langue, mais il y a toute une panoplie de différents aspects culturels, que ça passe par la nourriture, qui est fascinante, tellement plus sophistiquée que la nôtre. La nourriture chinoise fascine. À chaque fois que je rentre au Québec, pour plus de 2 semaines, j'ai l'estomac qui torture. Donc, en soi, il y a une passion en Chine qui fait en sorte qu'il y a différents aspects de la société qui est beaucoup plus forte ici que chez nous. Et il y a toute la vitesse de la croissance économique qui fait en sorte qu'il y a une synergie, une vitesse d'exécution, une vitesse des choses qui se font que chez nous, on pense à le faire et ici, ils le font, quoi. J'adore, quoi. C'était vrai il y a 7 ans et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc, le rythme ne fait qu'accélérer de façon exponentielle année après année. Donc, cette énergie qui se dégage de cette croissance économique dont on parle tant chez nous, ici, ça se passe pour vrai, quoi.
Et ça doit être fascinant, en fait, de voir un pays croître et changer de manière aussi rapide aussi.
Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Hein. J'en parle encore il y a quelques jours. Quand on est arrivé, les rues chez moi étaient tout étroites et tout. Et en 6-7 ans, ben, ils ont doublé, triplé, quoi. Donc, les choses se font. Tandis que chez nous, ben, on pense à le faire. Donc, c'est vraiment de voir ce pays qui se transforme avec une population qui apprend à vivre avec cette croissance économique. Mm-hmm. Et je compare tout ça souvent aussi les gaps de génération chez nous. Donc, c'est un truc qu'on vit, que toute population va vivre. Mais ici, entre 2 générations, le trou est tellement plus énorme parce qu'ils découvrent la société évolue à une vitesse beaucoup plus grande que les autres générations et les autres gaps de génération ailleurs dans le monde présentement. Mmh.
Comment s'est passée votre intégration à la société chinoise?
Je me considère toujours comme un mauvais immigrant. j'aime bien faire la comparaison avec les immigrants qui ont intégré le Québec et on se pense une société tellement d'intégration et tout. Donc, j'aime bien faire ce parallèle où je suis un mauvais immigrant, donc mon chinois est correct. Je mange, je vais où je veux. J'ai un dialogue avec mon fils de 2 ans et demi qui est correct. Mais c'est lui mon meilleur professeur présentement, donc ça me donne une idée. Et c'est ça, donc on évolue. Il y a une barrière d'immigration. Donc, je vis littéralement la vie de ce qu'un immigrant pourrait vivre chez nous, finalement. Mais ici, en Chine. Donc, il y a des différences culturelles. Les Chinois, depuis la crise économique de 2008, sont beaucoup plus forts, plus fiers. Mm-hmm. Donc, on resserrait les règles au niveau du commerce international, au niveau des entreprises étrangères qui s'aventurent en Chine, au niveau des permis de travail. Il n'y a pas de... Il n'y a pas comme chez nous, hein, une politique d'immigration ici. Hein, on est toujours des visiteurs, on est sur des permis de travail, des permis d'affaires. Donc, la vie est complètement différente. Donc, je me considère un peu comme un mauvais immigrant, tout simplement.
Est-ce que vous considéreriez que les Pékinois sont accueillants?
Oui, ça, il n'y a pas de doute. On a toujours cette aura d'étrangers, de Nord-Américains qui est encore très... très valable, très valorisé ici. Donc, on apprend à vivre avec ce qu'appellent eux les Chinois le Lawai, quoi. Donc, on est un blanc service, on est un blanc. Ils nous respectent pour ça. Ils sont accueillants. Ça, y a pas de doute. Ils nous respectent beaucoup. Mais il y a beaucoup, ce qu'il faut pas minimiser aussi, surtout dans le monde des affaires, le racisme face à l'étranger. Donc, le racisme dans le sens où les Chinois nous acceptent, oui, comme visiteurs, mais jamais comme un vrai Chinois. Okay. Donc, moi, je dis souvent la blague, malgré le fait que mon épouse soit chinoise, que je considère ma famille chinoise, des amis chinois, j'en ai très peu. J'en ai très peu, malgré le 7 ans que j'ai de vie ici. Donc, l'intégration est très difficile. L'intégration au premier niveau est automatique. L'intégration au deuxième et troisième niveau est excessivement difficile.
Ok. Et donc, vous, aujourd'hui, vous dites que vous vous considérez comme un mauvais immigrant, mais vous avez quand même bâti une famille avec une femme chinoise et vous avez un enfant maintenant et vous considérez une partie de votre famille comme étant chinoise. Donc, vous-même, comment vous vous sentez aujourd'hui?
Je sens un peu ce qu'appelle un œuf, quoi. Donc, c'est le... Chez nous, on a des bananes ici. Moi, je suis un peu un œuf. Donc, j'ai appris à faire des affaires. J'ai appris à fonctionner dans la culture chinoise. Mais je serai toujours fondamentalement un blanc.
Donc vous êtes comme un œuf, un blanc dehors et un jaune dedans, c'est ça?
Et voilà.
c'est extraordinaire, ça.
C'est un peu... Je pense que c'est une réalité auquel il faut faire face, auquel on ne peut pas aspirer changer. Donc on peut essayer d'apprendre. Je suis un amoureux de la Chine. J'aime bien apprendre sur leur culture, sur leur façon de faire. J'ai beaucoup de respect sur leur façon de faire. De plus en plus, d'ailleurs. Mais fondamentalement, je suis toujours blanc. Bon, et ça, ils le savent. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre avec.
Vous êtes blanc, mais est-ce que vous êtes aussi fondamentalement montréalais et québécois?
Oui. Ma langue, c'est important. D'ailleurs, mon fils, il va recommencer l'école en septembre. Je l'envoie au lycée français. Je l'envoie à tout ce qui est plus français. Donc, je veux vraiment qu'il y ait une connaissance du français. Je fais souvent référence à ma culture, à moi. Dans le cadre de mon boulot aussi, en fait, je travaille beaucoup avec les riches chinois qui aimeraient venir vivre au Québec. On travaille avec le plan Nord du gouvernement en place au Québec. Le gouvernement Charest, en fait, qui a été annoncé cette semaine en grande pompe. Mais évidemment, les Chinois sont intéressés à ça. Donc, fondamentalement, moi, je suis un ambassadeur de ces nouveaux éléments-là qui sont fondamentalement québécois. Donc, je m'attache à ce que je suis, donc québécois, d'origine québécoise, et j'offre aux Chinois, parce que je travaille beaucoup plus avec les Chinois qu'avec les Québécois, en fait, à ce qu'on a de meilleur chez nous. Donc, c'est ce que je leur offre. Et ils aiment ça. Ils en redemandent. Ils demandent est là.
C'était intéressant aussi parce que tout à l'heure, vous parliez de tout ce que vous voyez de bien, tout ce que vous aimez dans la culture chinoise, en fait, cette efficience, cette efficacité, l'action rapide, etc. Mais qu'est-ce qui vous manque aussi du Québec?
Les amis, je vous dirais, c'est presque scandaleux de le dire, mais une bouffe chez Saint-Hubert, quoi.
vous avez le droit.
Il y a des choses avec lesquels on a grandi, avec lesquels on est attaché, quoi. Donc, la famille, les amis, le cadre, je vous dirais même à la limite, je suis avocat, donc le cadre juridique peut me manquer. Donc, il y a des aspects de ma culture auxquels je crois fondamentalement. Et puis, oui, évidemment, il me manque.
Et pour ce qui est de vos plans d'avenir, est-ce que vous avez l'intention de rester encore à Pékin ou est-ce que vous aimeriez revenir au Québec?
Je suis malheureusement pris ici. J'ai tenté de rentrer en 2008 au Québec et le rythme de vie québécois me plaisait pas. La vie, l'économie, le modèle québécois ne s'attachait plus à moi. Je suis simplement glissé. Donc je suis revenu en courant sur la Chine. Donc oui, je dois vous admettre avec un peu d'amertume que je suis un peu pris ici par la nature où ma famille est ici, parce que j'ai appris à vivre ici, parce que l'avenir est ici. Hein, le FMI le disait récemment avec une étude non scientifique, mais il y a maintenant des gens qui disent que ce sera la plus grande économie du monde en 2016. Mm-hmm. Il y a d'autres chiffres, The Economist tirait sur 2019. Donc, je fais partie de la plus grande économie du monde. Donc, fondamentalement, je pense qu'il y a un avenir ici qui est indéniable dans un monde globalisé. Donc, il y a moyen de s'intégrer à cette machine-là, mm-hmm. Comme un immigrant le serait ailleurs dans l'Occident.
Mm-hmm. Est-ce que ça change votre perception du Québec et des immigrants comme lorsque vous revenez ici? Le fait d'être vous-même maintenant un immigrant intégré ailleurs, quel changement ça a apporté à vous dans votre vision de la nouvelle, si on veut, de la nouvelle carte du Québec qui est super multiculturelle?
Ah, j'en suis beaucoup plus sensibilisé. Hein. Mm-hmm. J'étais le typique Québécois, francophone, issu de souches de plusieurs générations, qui avait une difficulté à comprendre l'immigration au Québec avant de débarquer ici, mm-hmm. de vivre l'immigration et un retour. Hein, à l'époque, en 2008, quand je retournais au Québec, je l'ai fait avec mon épouse, j'ai vécu l'immigration, mm-hmm. même à travers mon épouse et tout ça, les défis de l'immigration au Québec. Je l'ai appréhendé, je l'ai expérimenté, j'en suis tellement plus conscient. On fait de belles choses au Québec au niveau de l'intégration, mais on a beaucoup à apprendre. On n'est pas conscient, en fait, à titre de Québécois, de l'effort qui est fait par les immigrants qui aspirent à notre culture, qui aspirent à notre société et qui font tellement d'efforts pour s'y intégrer, tandis qu'ici, ils permettent pas l'intégration du tout. Mm-hmm. Donc, absolument, hein, j'en suis tellement plus conscient. Ça, je pense que c'est une leçon de vie que j'ai appris dans les dernières années, qu'on minimise l'impact de ces gens qui aspirent à une meilleure terre qui est chez nous. Le Québec est une terre d'accueil fascinante, où est-ce qu'on accepte et tout, mais il y a des défis incroyables, et ça, on le réalise pas. Les Québécois le réalisent pas assez à quel point ces gens-là, les immigrants font un effort incroyable et s'intègrent finalement à notre culture. Tandis qu'ailleurs, il y a plein d'autres pays où les gens s'intègrent pratiquement pas, quoi.
Ouais. La dernière question que je vais vous poser, c'est quel est le lieu, à votre avis, à Beijing, qu'il faut absolument visiter dès qu'on arrive?
Vous arriverez tous par l'aéroport de Beijing, Terminal 3. Mmh. C'est le terminal international, c'est la splendeur chinoise. Ils ont bâti le terminal pour les Olympiques de 2008. Mmh. Vous y arriverez, vous comprendrez la Chine en arrivant là. Donc la splendeur, la croissance économique, la puissance chinoise s'explique par l'aéroport quand on y arrive. Et ensuite de ça, il faut voir Tiananmen. Mmh. Donc la place Tiananmen, qui est le pouvoir chinois, qui est plein de symboles chez nous parce que on entend parler de Tsukui Sauce, mais qui, selon moi, explique à la fois l'histoire de 5000 ans de la Chine et le pouvoir actuel économique chinois. Il y a le musée d'histoire, d'ailleurs, les Chinois sont bons avec les symboles. Il y a Mao qui est au milieu, le Parlement qui est à sa droite. Vous avez la cité interdite derrière et vous avez le musée d'histoire à droite. Mmh. Tout ensemble, vous avez ce qu'est la Chine, sa puissance, sa force, son économie. Donc la place Tiananmen, définitivement, il faut se placer au centre, regarder dans chacune des directions. Et je pense que la Chine s'explique en un mouvement.
Je vous remercie chaleureusement, Michael.
Merci, hein, merci d'avoir la chance de parler de la Chine et de ma vie.
Eh bien, je vous souhaite une excellente continuation et j'espère en tout cas, si vous repassez bientôt au Québec, eh bien, un bon voyage vers chez vous.
Oui, on n'oublie pas le Québec, on y repasse. Merci. Let your love thank you.